Bienvenue pour ce nouveau cycle d'enseignement, qui va être le dernier sur l'ontologie des images. Ce que je voudrais faire au cours de cette année, c'est d'aborder des questions que je n'ai pas eu le temps de traiter au cours des cycles d'enseignement précédents. Et pour ce faire, il me faut auparavant dire quelques mots de ce que j'ai fait, puisque cela suppose que les précisions que je vais apporter tout au long de cette année supposent que ce que j'ai fait auparavant dans ce cours soit connu. Je vais en effet aborder des points problématiques sur lesquels je n'avais guère eu le loisir de m'apesantir, engagé que j'étais dans la construction d'un modèle général. Et il s'agira donc de fait d'opérer un retour réflexif sur ce modèle pour en préciser certains aspects qui ont fait l'objet de débats, notamment au cours de l'année écoulée, et en particulier du fait de l'exposition « La fabrique des images », qui est une sorte d'expérience que j'ai voulu mener et qui m'a permis de présenter à un public assez large certaines des idées que j'avais développées dans le cours de cet enseignement ici. À ma grande surprise, à mon grand plaisir d'ailleurs, cette exposition a reçu un grand nombre de visiteurs et a suscité pas mal de discussions. Et donc certains des thèmes que je vais aborder naissent, et c'est véritablement pour cela que j'ai fait cette exposition, de ce retour d'expérience. Il s'agira aussi d'aborder des questions concernant la figuration, que j'avais soit laissé provisoirement de côté, soit traité de façon trop rapide. Donc je vais, pour employer une expression vulgaire, resserrer des boulons cette année, après avoir, au cours des années précédentes, présenté le modèle général de ce que j'ai appelé l'ontologie des images. Alors l'ontologie des images, elle s'inscrit à l'intérieur d'un projet que j'ai appelé une anthropologie de la figuration, et sur lequel je voudrais revenir. Et donc, ce que je vais dire à présent, je m'en excuse auprès des auditeurs fidèles que je repère dans la salle et qui m'écoutent depuis plusieurs années, sont des choses qui vont être en partie connues, mais il m'a paru nécessaire de les dire, de façon à, dans la deuxième partie de ce cours, de proposer les directions de recherche dans lesquelles j'allais m'engager cette année. Donc je me suis engagé depuis quelques années dans une anthropologie de la figuration ou de la mise en image. Et qu'est-ce que c'est que la figuration? À la différence de l'art, qui demeure lié à des contextes historiques spécifiques, la figuration, c'est une opération universelle au moyen de laquelle un objet matériel quelconque est investi de façon ostensible de ce que j'appelle une agence. Alors c'est le terme que j'emploie pour traduire l'anglais agency. Il y a de très nombreuses traductions possibles sur le marché. Il m'a semblé que agence était le terme le plus commode à employer. Une agence donc socialement définie suite à une action de façonnage, d'ornementation, d'aménagement, de mise en situation. Et cette action, elle vise à donner à l'objet un potentiel d'évocation iconique d'un prototype réel ou imaginaire que cette icône, que cette image dénote de façon indicielle. Pourquoi ? Parce que quelque chose de l'intentionnalité du prototype ou de ceux qui ont fait l'image paraît active dans celle-ci. Et la dénotation, je rappelle donc des définitions générales, doit pouvoir aussi jouer sur une ressemblance directe, de type mimétique, ou sur tout autre type de motivation identifiable de façon médiate ou immédiate, l'idée étant que c'est dans la relation iconique au prototype que réside au premier chef l'agence. Donc l'iconicité joue un rôle ici important, je ne traite que d'images iconiques, mais en entendant l'iconicité au sens le plus large du terme, dans la définition qu'en donne Peirce, c'est-à-dire dans le fait qu'on puisse repérer au moins une qualité du prototype dans l'icône. Mais la figuration, elle n'est pas tout entière livrée à la fantaisie expressive de celui qui figure, pas plus qu'elle n'est réductible à la rencontre fragile entre les caractéristiques du prototype et les contraintes techniques d'exécution. Elle procède de ce que Merleau-Ponty appelait avec bonheur une doublure d'invisible, c'est-à-dire un schème qui est à la fois sensible et intelligible, au moyen duquel une matière et une forme se combinent selon des conventions qui demeurent souvent informulées, afin de produire une image qui réponde aux attentes de tous ceux par qui et pour qui elle est engendrée. Or, l'hypothèse que j'ai explorée tout au long de ce cycle d'enseignement, c'est que ce schème figuratif n'est pas étranger à ce que j'ai appelé des modes d'identification, c'est-à-dire des formes d'organisation de l'expérience du monde correspondant aux diverses façons de déceler des qualités dans les existants, donc d'imputer ou non aux existants certaines aptitudes les rendant capables de tel ou tel type d'action. Ainsi entendu, l'identification m'a paru pouvoir être fondée sur les diverses possibilités d'imputer ou de déceler dans un autre indéterminé que j'appelle un alioude. Je préfère le terme alioude au terme alter, parce qu'un alioude, c'est un autre qui n'est pas encore déterminé dans une relation. Donc, dans un alioude indéterminé, une physique que j'appelle une physicalité et une intériorité analogue ou dissemblable à celle dont tout humain fait l'expérience. De ce fait, l'identification peut se décliner en quatre formules que j'appelle des formules ontologiques, puisqu'elles traitent des qualités des objets du monde. Soit la plupart des existants sont réputés avoir une intériorité semblable tout en se distinguant par leur corps. J'ai appelé ça, reprenant un vocable établi depuis longtemps en anthropologie, l'animisme. C'est quelque chose qui définit les populations en Amazonie, dans le nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est et en Mélanésie. Soit les humains sont seuls à posséder le privilège de l'intériorité tout en se rattachant au continuum des non-humains par leurs caractéristiques matérielles, donc la formule inverse de la précédente. J'ai appelé ça le naturalisme, reprenant là aussi dans un sens très particulier un terme établi depuis longtemps, et la forme la plus classique, si vous voulez, la plus commune, c'est l'Europe à partir de l'âge classique. Soit certains humains et non-humains partagent à l'intérieur d'une classe nommée les mêmes propriétés physiques et mentales, ou morales, si vous voulez, issues d'un prototype tout en se distinguant en bloc d'autres classes du même type, et c'est ce que j'ai appelé, reprenons là encore un terme classique, le totémisme, et c'est au premier chef les aborigènes australiens, soit tous les éléments du monde se différencient les uns des autres sur le plan ontologique, raison pour laquelle il convient de trouver entre ces éléments des correspondances stables. Et c'est ce que j'ai appelé l'analogisme, parce que le raisonnement analogique joue un rôle très important dans la mise en œuvre de ces correspondances, même s'il n'est évidemment pas exclusivement actif dans des ontologies de ce type. Et les meilleurs exemples en sont les grandes civilisations d'Extrême-Orient, notamment la Chine, mais aussi l'Europe de la Renaissance, notre passé à nous, c'est-à-dire non avant la Renaissance, la période médiévale et l'Antiquité, l'Afrique de l'Ouest, les civilisations des Andes et du Mexique, etc. Alors, il m'a paru, et je vais très vite encore une fois, parce que tout ça, je l'ai déjà dit, il m'a paru que ces quatre formules induisent des effets sur la genèse des images. Alors, il existe certes un petit nombre de dispositifs figuratifs dont la distribution est à peu près universelle, et elle est donc indépendante des ontologies localement dominantes. Je peux penser notamment à la pictographie comme art de la mémoire, à l'héraldique comme un instrument de différenciation, à la caricature ou au graffiti comme appropriation ludique d'autrui. Mais si l'on accepte ces quelques modes transculturels et aisément reconnaissables, en outre, de mise en image, il me semble que tous les autres produits de l'activité figurative, aboutissant à des images iconiques, varient selon le type d'entité que cette activité donne à voir, selon le type d'agence dont ces produits sont investis et selon les moyens par l'intermédiaire desquels ils sont rendus visibles. Bref, chacun des modes d'identification stipule des propriétés différentes pour les objets figurables et appelle donc un mode de figuration particulier. Alors je vais dire un mot, là aussi, sur des choses connues pour vous remettre en mémoire les caractéristiques de chacun de ces modes de figuration, puisque je reviendrai à maintes reprises dans l'enseignement cette année sur certains d'entre eux. Et je vais commencer par l'animisme. Donc je rappelle que l'animisme, c'est, dans la définition que j'en donne, la généralisation au non-humain d'une intériorité de type humain combinée à la discontinuité des corps et donc à la discontinuité des perspectives sur le monde et des façons d'habiter ce monde ou ces mondes. Alors, figurer une ontologie de ce type, c'est rendre visible l'intériorité des différentes sortes d'existants et c'est montrer que cette intériorité se loge dans des corps aux apparences dissemblables, mais qui sont identifiables sans équivoque par des indices d'espèce. Et je rappellerai brièvement quelques façons de réaliser cet objectif. D'abord, on rencontre très souvent, en régime animique, des images composites où sont conjoints des éléments anthropomorphes évoquant l'intentionnalité humaine et des attributs spécifiques à des animaux, à des esprits et même à des plantes. Les images les plus courantes dans ce registre étant celles qui comportent des indices d'humanité, quelquefois ténus, quelquefois très visibles, des traits du visage, par exemple, greffés sur des formes thériomorphes. Alors, je vais vous rappeler, parce que c'est des images que j'ai déjà utilisées, certaines d'entre elles, les masques Yupik d'Alaska en sont une bonne illustration, puisque elle présente la tête d'un animal qui est clairement identifiable, à l'intérieur de laquelle est figuré un indice d'intériorité sous la forme d'un petit visage humain qui peut être situé dans différentes parties de la tête de l'animal, quelquefois de façon très économique, comme dans cet exemple, où il y a un visage humain qui est en quelque sorte coextensif au corps animal et à peine suggéré par la présence des deux yeux, quelquefois plus appuyés, comme dans ce cas où l'on figure en outre des membres de façon à inciter à voir dans ces grosses moules quelque chose de plus qu'un simple animal. Une autre façon de figurer l'intériorité des animaux, dans l'ère circumpolaire encore, c'est la miniaturisation. Chez les Esquimaux du Canada, comme chez les Tchouktches de Sibérie, on trouve des figurines de très petites dimensions, et ça depuis très longtemps, qui sont sculptées avec une grande économie de moyens, tout en étant d'une ressemblance saisissante, notamment par le rendu du mouvement, et qui représentent pour l'essentiel des animaux. Alors voilà un qui date de la culture du Dorset, donc il y a plus de 2000 ans. Et en voilà de la culture de Thulé, donc dans des deux cas, des figurines qui sont les unes et les autres très anciennes. La très petite taille des figurines est un moyen de figurer l'intériorité de l'animal. Alors, on dit que c'est son âme, parce que son âme, elle est décrite comme un minuscule modèle réduit de l'être humain ou non humain qu'elle anime. Et ces figurines servent aussi à opérer des métamorphoses et des amplifications du fait du dynamisme ontologique prêté au changement d'échelle, notamment par les Inuits. Elles permettent aussi de figurer des relations avec les esprits des animaux et avec leurs gardiens. Lorsque les âmes, ce qui est le cas en régime animique, peuvent adopter l'apparence qu'elles souhaitent donner d'elles-mêmes, on n'est évidemment jamais sûr de l'identité réelle de la personne qui se dissimule à l'intérieur du vêtement corporel que l'on perçoit. Un carnassier, par exemple, peut habiter un paisible caribou, comme c'est le cas dans cette image. On a d'un côté les morses, les défenses du morse, et de l'autre le caribou, avec néanmoins les dents du carnassier qui dépasse bizarrement de la bouche du caribou. Ou bien l'esprit ours d'un chaman peut laisser transparaître les loutres qui lui servent d'auxiliaire, comme c'est le cas dans ce masque Tlingit. Les masques à transformation, qui sont caractéristiques des cultures de la côte nord-ouest, ou les masques mi-humains, mi-animaux, qui sont aussi courants dans cette région, vont beaucoup plus loin parce qu'ils donnent à voir une métamorphose, c'est-à-dire un changement de point de vue. Sous un angle, l'être figuré est un animal. Sous un autre, c'est non pas un humain, mais c'est la dimension humaine, c'est-à-dire la dimension de son intentionnalité de type humain qui transparaît. Alors, les figurines inuites dites à transformation jouent un rôle analogue. Dans tous les cas, on a affaire à des commutateurs de perspective. Donc voilà un masque à transformation Haïda, avec c'est la figure du corbeau, qui est une figure importante parmi toutes les cultures de la côte nord-ouest. Et lorsqu'il s'ouvre, on voit non pas un humain, mais l'intériorité de cet esprit qui se dévoile. Il en va de même avec ce masque de chaman Yupik, tout en bas, où on voit, lorsque le masque s'ouvre, l'intériorité de cet esprit, qui est un esprit prédateur, on le voit à la vue de ses dents, se dévoile également. Dans certains cas, il suffit d'une translation. Ça, c'est un masque de chaman Mabetisek, donc on est dans une toute autre région du monde, puisque c'est des populations aborigènes de Malaisie, avec une partie humaine d'un côté et la partie tigre de l'autre, ce qui fait qu'une légère translation dans l'espace permet de voir soit le côté humain, qui est ici, soit le côté tigre de l'autre. Donc à chaque fois, commutation de perspective. On le voit ici aussi, ce sont des figurines inuites dites à transformation qui ont un certain succès maintenant sur le marché de l'art ethnique international et qui jouent aussi sur ce rôle. Là, c'est un chaman morse. Ici, c'est une chaman bœuf musqué. On voit donc le bœuf musqué, mais la tête assez visible d'une femme avec les longues nattes qui se déploient sur le dos. C'est toujours le même principe, c'est celui de la commutation de perspective entre un corps d'espèce et une intériorité de type humain. Certains masques Yupik rendent manifeste une thématique tout à fait récurrente de l'animisme circumpolaire que l'on peut appeler garder les animaux à l'esprit. C'est très net en particulier dans ces masques asymétriques ou des animaux miniatures qui figurent les pensées de chasse. Sont disposés tout autour d'un œil écarquillé, tandis que l'autre œil, à demi-clos, n'accueille aucun ornement. J'ai consacré des longues discussions à la le caractère très compliqué du point de vue de la récursivité que ce genre de masque suppose. Une autre façon de garder les animaux à l'esprit dans l'ère circumpolaire, c'est la manipulation des figurines animales. C'est du type de celle qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais pas si j'en ai... Non, je n'en ai pas montré. Le grand réalisme du mouvement, elles sont du même type que celles qu'on a vues tout à l'heure, que les figurines inuites. L'extrême minutie avec laquelle le mouvement est dépeint invite à les considérer comme des incorporations matérielles de pensées au sujet des animaux qu'on peut manipuler, comme on manipule des pensées ou des souvenirs. Et elles sont donc si microscopiques qu'on peut les retourner dans la main, comme on retourne une image dans sa tête. Donc emmener avec soi des figures animales pour un chasseur, c'est non seulement avoir en permanence des animaux à l'esprit, c'est aussi s'en servir comme des relais matériels dans la relation qu'il entretient avec les esprits du gibier et dont la générosité, évidemment, assure aux humains un approvisionnement régulier en viande. On en trouve des exemples. Oui, ça, c'est une autre façon d'avoir les animaux à l'esprit. Ils sont tout autour de la périphérie du champ visuel, ici. Et on en trouve aussi des exemples dans les casquettes de chasse à l'éoute, où les animaux brinquent-ballent, en quelque sorte, à la limite de la tête. Et c'est donc une autre façon de garder en permanence les animaux à l'esprit. Ça, c'est un dessin contemporain, pour dire que c'est, au fond, un mouvement... tout à fait, qui se poursuit jusqu'à présent. Et même les esprits doivent garder les animaux à l'esprit, puisqu'on a ici des caribous. Ici, il est possible que ce soit des morses, mais le dessin est très effacé. Donc même les esprits doivent en permanence garder les animaux à l'esprit, puisqu'évidemment, comme les volets se ferment, ils les ont en permanence devant leur champ visuel. Donc, voilà différentes façons. Alors, je ne vais pas parler des parures. Peut-être juste un mot pour rappeler ce que c'est que l'animisme dans une autre région du monde, en Amazonie. Je rappelle que dans le monde de l'animisme, tous les existants qui occupent une position de sujet, y compris donc les animaux, se voient comme des humains et arborent des peintures corporelles qui servent à marquer des statuts ou des états particuliers, la maternité, la paternité, le deuil, la maladie, etc. Or, les motifs que les humains voient habituellement sur les corps des animaux, des taches, des ocelles, des bandes, des écailles, sont perçus par les congénères de ces animaux, non pas comme nous les percevons, nous humains, mais comme des peintures corporelles sur un corps humain, puisque les animaux se voient, comme je viens de le dire, en général eux-mêmes comme des humains. Autrement dit, ce que les congénères des animaux voient sur le corps de leurs congénères, ce sont des dessins géométriques, plus ou moins complexes, ayant une fonction héraldique. Et les humains qui souhaitent être vus par des animaux comme des membres de leur collectif se peignent, donc, non pas tels qu'ils, c'est-à-dire les humains, voient ces motifs, mais tels qu'ils pensent que les animaux eux-mêmes les voient, c'est-à-dire comme des dessins aniconiques. Et c'est ce qu'a fait ce chaman Yanomami en adoptant une peinture de jaguar. C'est un camouflage ontologique, ce n'est pas un camouflage réel, c'est un camouflage ontologique. Il se fait passer pour un jaguar en adoptant des peintures que les jaguars voient sur le corps de leurs congénères de façon à passer comme un jaguar. Voilà. Je vais très vite, hein, parce que c'est des choses que j'ai déjà dites. Le naturalisme, je vais passer peut-être encore plus vite. Je l'ai dit, la formule du naturalisme, elle est inverse de celle de l'animisme. Ce n'est pas par leur corps, mais par leur esprit que les humains se différencient des non-humains, comme c'est aussi par leur esprit qu'ils se différencient entre eux, par paquets, ce qu'on appelait... ce qu'on appelle maintenant les cultures ou le génie d'un peuple, grâce à la diversité des réalisations que leur intériorité collective autorise en s'exprimant dans des langues et dans des systèmes symboliques distincts. Quant aux corps, eh bien, ils sont tous soumis au même décret de la nature et ils ne permettent pas de singulariser par des genres de vie comme c'était le cas dans l'animisme. Autrement dit, les deux traits qu'une figuration de l'ontologie naturaliste doit objectiver, c'est l'intériorité distinctive de chaque être humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène. Et ces deux objectifs ont reçu, comme je me suis forcé de le montrer, un début de réalisation dans la peinture flamande dès le XVe siècle, en fait probablement bien avant, mais de façon éclatante dans la peinture flamande dès le XVe siècle, car ce qui caractérise la nouvelle façon de peindre qui naît à cette époque en Flandre, mais aussi en Bourgogne, c'est l'irruption de la figuration de l'individu, d'abord dans des enluminures où apparaissent des personnages aux traits réalistes, dépeints dans un cadre réaliste, en train d'effectuer des activités réalistes, puis dans des tableaux caractérisés par la continuité des espaces représentés, par la précision avec laquelle les moindres détails du monde matériel sont rendus et par l'individuation des sujets humains qui sont dotés chacun d'une physionomie qui lui est propre. Donc la révolution dans l'art de peindre qui se met en place à cette époque installe durablement en Europe une façon de figurer qui choisit de mettre l'accent sur l'identité individuelle tout à la fois de l'icône, du prototype, de l'artiste et du destinataire, une manière de figurer qui se traduit par une virtuosité sans cesse croissante dans deux genres inédits qui sont la peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité comme indice de la singularité des personnes humaines, et l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être observé et décrit pour lui-même. Alors, à la différence des trois autres ontologies, cette ontologie elle est marquée par un mouvement historique qui est très net dans l'iconographie et qui résulte d'une tension entre l'intériorité et la physicalité qui me paraît tout à fait propre au naturalisme et qui voit l'intériorité, c'est-à-dire la singularité de la subjectivité humaine, s'affirmer au début 15e et au 16e siècle de façon éclatante, puis se dissoudre au fil du temps pour laisser place à l'universalité de la physicalité, dont la forme la plus évidente maintenant est l'idée que la conscience n'est qu'une propriété émergente de mécanismes neuraux. Alors, dans le domaine des images, ce mouvement historique se traduit par un processus progressif d'immanentisation. La conception chrétienne de l'image, qui voit dans celle-ci une empreinte et un succédané d'un modèle divin, transcendant, irreprésentable, subit une inflexion à la Renaissance, en ce que le modèle de perfection commence à être rapatrié dans l'intériorité subjective humaine, c'est la peinture de l'âme. Il devient donc immanent, mais cet idéal de l'harmonie intérieure finit, au fil du temps, par perdre sa fonction rectrice pour disparaître en grande partie dans le dernier tiers du XIXe siècle, où il cède la place à une physicalité qu'on pourrait appeler autoréférentielle, dont les images ne sont plus que la monstration. Et donc, dans cette longue transition, j'ai distingué quatre périodes. Je vais vous les faire défiler très rapidement, qui sont d'une part l'émergence du sujet dans un monde objectif, c'est le XVe et le XVIe siècle. Donc je ne ferai pas de commentaires, puisque la plupart de ces images, je les ai déjà longuement commentées. Celle-là est peut-être l'une des plus exemplaires de cette période. Juste un mot, là, ce sont des tableaux de vanité qui sont très courants à l'époque et qui ont une connotation morale, c'est un prétexte non seulement à enseignement moral, mais aussi à manifester un très grand réalisme dans la figuration de l'environnement et des objets de la vie courante, et dans la singularité de l'intériorité des personnages qui peuplent ces images. Singularité qu'on voit dans des portraits aussi. Dans les autoportraits, ce n'est pas simplement les individus représentés qui ont une singularité, c'est aussi ceux qui les représentent et qui commencent à se figurer en tant que tels. On pense que c'est le premier autoportrait explicite, en tout cas, de l'histoire de la peinture. Il y en a eu auparavant, mais qui était caché dans des images, si je puis dire. Alors, au XVIIe siècle, intervient ce que j'ai appelé l'immanentisation, c'est-à-dire que la subjectivité devient anonyme, les personnages deviennent plus difficiles à déchiffrer. Ce qui frappe, c'est non seulement les rapports intersubjectifs entre les éléments du tableau, mais aussi peut-être la latitude qui est laissée au spectateur pour les interpréter. La tendresse pour le réel aussi, la volonté d'épuiser de manière systématique la description du monde dans tous ses détails, l'intérêt pour la description exhaustive, y compris de d'autres régions du monde qui commencent à se faire jour à l'époque. C'est la grande période des natures mortes, de la peinture de paysages, y compris des paysages exotiques. Troisième période, ce qu'on pourrait appeler la naturalisation en marche, c'est-à-dire, au fond, l'idée que la mise en évidence des continuités physiques commence à l'emporter sur la figuration de l'intériorité, dans toutes sortes de médium, l'homme, au fond, devient un animal comme les autres, suivant en cela les théories de Descartes et de la Métrie, et la figuration anatomique commence à se développer, même si le genre avait commencé bien avant. Les automates, qui sont les animaux-machines, enfin, c'est la réalisation du rêve de Descartes, l'imitation de la vie. Alors, Vaucanson en est le héros, mais il y a un très grand nombre de mécaniciens qui, à l'époque, produisent cette imitation de la vie, notamment les frères Jacques et de Rose. Dernière période, je passe très brièvement, c'est donc l'émergence de ce que j'ai appelé une physicalité autoréférentielle. L'intériorité et la vie deviennent réduites à des paramètres physiques. On passe de la représentation à la monstration et à la figuration de l'apparaître. Et l'idéal d'un modèle de la chose représentée disparaît pour laisser la place à un monde qui devient physique de part en part. C'est la naissance de la photographie, c'est la volonté de réduire cette chose aussi complexe qu'est le mouvement à des paramètres purement physiques. Bien après, évidemment, les photos de Jules Étienne et les films, les chronophotographies de Jules Étienne Marais, les images d'imagerie à résonance magnétique ou de tomographie par émission de positons qui révèlent le fonctionnement mécanique, physique de la pensée, qui donc, d'une certaine façon, réduisent l'intériorité, les ultimes lambeaux d'intériorité à des images. Voilà. J'ai été très rapide, mais encore une fois, tout ça, c'est des choses que j'avais déjà évoquées. Un mot sur le totémisme maintenant. Le monde du totémisme, il est composé d'un grand nombre de classes d'êtres regroupant des humains et diverses sortes de non-humains, les membres de chaque classe partageant des ensembles différents de qualités physiques et morales que le totem, pour reprendre l'expression consacrée, est réputé incarner. Alors, dans les sociétés aborigènes d'Australie, où cette ontologie est la mieux attestée, mais je reviendrai sur d'autres exemples que l'Australie cette année, c'est pour ça que je voudrais en dire je voudrais reprendre ce que j'ai dit sur l'Australie très brièvement pour synthétiser. Dans les sociétés aborigènes d'Australie, le noyau de qualité caractérisant la classe totémique est réputé issu d'un prototype primordial qu'on appelle traditionnellement dans la littérature ethnographique et depuis les travaux de Spencer et Gillen sur les Arandas, les êtres du rêve. Les images totémiques révèlent donc l'identité profonde des humains et des non-humains de la classe totémique. C'est une identité profonde de type interne, en ce sens que tous les membres de la classe totémique incarnent ou incorporent une même essence dont la source est réputée localisée et dont le nom synthétise les propriétés qu'ils possèdent en commun, et d'autre part, une identité physique, puisqu'ils sont les membres de cette classe, tous formés des mêmes substances, sont organisés selon les mêmes structures et possèdent le même genre de tempérament et le même genre de disposition. Les objectifs figuratifs du totémisme australien sont donc mis en œuvre au moyen de plusieurs stratégies figuratives. Je n'en évoquerai ici que deux, j'en ai évoqué une troisième lors de mes cours précédents, je n'en évoquerai que deux par commodité, qui sont, que j'appellerai la figuration de l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui ont engendré cet ordre, qu'on peut appeler l'ordre incorporé, et la figuration de l'ordre totémique au moyen de l'image des traces ordonnatrices que les êtres qui ont créé cet ordre ont laissé, et ce qu'on peut appeler l'ordre dynamique. L'ordre incorporé, cette première forme de figuration totémique, elle est illustrée par des peintures, classiquement, selon le style dit des rayons X. Ce sont des silhouettes animales ou des silhouettes humaines inertes, à l'intérieur desquelles sont représentés avec une très grande exactitude le squelette, les organes, et on les trouve essentiellement dans la partie occidentale de la Terre d'Arnhem, dans le nord de l'Australie. Qu'est-ce que ces images mettent en évidence ? Elles mettent en évidence la permanence des identités de structure entre humains et non-humains, et elles les mettent en évidence de façon visible au moyen du langage figuratif de la physicalité. Ce sont des squelettes de même type. Et ce langage figuratif de la physicalité, il est caractérisé par trois traits récurrents. D'une part, la netteté de l'organisation morphologique et des divisions internes, comme on le voit ici, qui donne à voir la permanence de la relation métonymique d'identité entre humains et non-humains. Deuxième trait caractéristique, c'est l'englobement dans la figure du totem de ses attributs et de ses créations qui sont présentées comme des organes, ce qui est le cas dans cette image, puisque les poumons, les testicules de ce personnage sont en fait des objets rituels, et que donc ce que une image de ce type donne à voir, c'est non pas un être particulier situé dans le monde, mais des qualités du monde enveloppées dans un être particulier, qualités du monde qui sont évidemment traduites par des objets rituels approprié à telle ou telle circonstance. Et finalement, troisième trait récurrent de cette figuration que j'ai appelée de l'ordre incorporé, c'est l'immobilité figée de l'être du rêve représenté, comme on peut le voir ici. Donc les êtres du rêve, ou les totems, comme vous voulez, ce sont ces deux grues rouges, des brolgas, dont on voit bien, effectivement, les organes, l'estomac, le tube digestif, le nerf optique, etc. Et puis là, il y a des esprits, il y a des petits esprits qui sont un peu comme des humains, c'est-à-dire qu'il s'agit de beaucoup, mais qui sont tout à fait secondaires, un peu comme les humains dans toute cette affaire sont un peu secondaires. Mais ce qui compte ici, c'est l'absolue immobilité. Ce sont des prototypes, ce sont des patrons, un peu comme on parle de patrons pour un modèle de vêtements. Il donne à voir, au fond, le caractère inaltérable des divisions que chacun de ces êtres a institué, de sorte que le mouvement est ici dans le geste figuratif et non pas dans la figure. Et c'est très net dans la mesure où, dans cette région, en particulier, on a des peintures de ce type dans les abris sous roche, qui sont très anciennes et qui sont régulièrement repeintes par les aborigènes, qui viennent en quelque sorte rafraîchir cet ordre, se faisant ainsi les instruments des divisions instaurées à l'origine. Deuxième type d'ordre, c'est ce que j'ai appelé l'ordre dynamique, c'est une autre manière de rendre présent les êtres du rêve, ce qui est la plus connue du grand public, puisque ce sont ces grandes toiles, enfin, pour certaines d'entre elles assez grandes, de peinture acrylique, qui figurent les actions des êtres du rêve dans le désert central de l'Australie, sous la forme des traces que ces êtres du rêve ont laissées. Il s'agit donc d'une série de graphèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, dont les enchaînements illustrent la narration de récits relatant les opérations génératives des êtres du rêve, graphèmes qui étaient auparavant donc disposés sous la forme quasiment d'une pictographie, mais ce n'est pas tout à fait une pictographie au sens classique, sous la forme de dessins sur le sable et quelquefois aussi reproduits sur des objets rituels et qui sont maintenant figurés, mais c'est exactement la même chose, sur des toiles en peinture avec de la peinture acrylique. Donc au lieu de figurer dans cette façon de figurer l'ordre totémique, au lieu de figurer les agents de la génération sans leurs traces, comme c'est le cas par exemple dans le nord de l'Australie, pour montrer que le monde ne fait plus qu'un avec le corps inerte de ceux qui l'ont ordonné, ici, dans le désert central, les aborigènes figurent les traces sans les agents, pour bien montrer que ces agents ayant disparu de la scène, leur action instituante est terminée, mais non pas d'ailleurs leur action générative, puisqu'ils sont toujours actifs. Dernier mode de figuration, ce que j'ai appelé l'analogisme. Donc je rappelle de quoi s'agit-il. Avoir sur le monde un point de vue analogiste, c'est percevoir tous les occupants du monde, y compris leurs éléments constitutifs, composants de la personne humaine en particulier, comme différents les uns des autres, au physique comme au moral. Et un tel monde dans lequel chaque entité, chaque état, chaque situation forme une singularité, deviendrait impossible à penser si on ne tâchait de déceler entre les existants, leurs états, leurs composantes, etc., des correspondances stables, et si l'on cherchait aussi à déceler des correspondances entre les parties dont toutes ces entités sont faites. Par exemple, selon les qualités qu'on leur impute, certaines choses seront associées au chaud, d'autres au froid, certaines au jour, d'autres à la nuit, certaines au sec, d'autres à l'humide, etc. Et on peut, de ce fait, constituer des longues chaînes d'analogies transitives qui réordonnent ce monde de singularité à partir, en particulier, de systèmes d'opposition de qualités sensibles. Donc l'objectif figuratif de la figuration analogiste, c'est de rendre présent quoi ? Eh bien, tout simplement, des réseaux de correspondance. Et des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus. Ce qui suppose de multiplier les composantes de l'image et de mettre en évidence les relations entre ces composantes. Et quelle que soit l'exactitude de la représentation des détails à laquelle la figuration analogiste a pu parvenir, elle ne vise pas tant à imiter avec vraisemblance un prototype qui serait dit naturel, qui serait objectivement donné, qu'à restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce prototype prend un sens et exerce une agence. Alors, je vais vous donner quelques exemples très brefs, puisque je vois que le temps passe vite. Une caractéristique évidente de la figuration analogiste ou la figure disons, la plus classique, peut-être, c'est la chimère, c'est-à-dire c'est un être qui est composé d'attributs appartenant à des espèces différentes, mais qui présente une certaine cohérence sur le plan anatomique. C'est un hybride dont les éléments constitutifs relèvent de registres hétérogènes, mais qui peut se rencontrer de façon conjoncturelle dans un être tout à fait singulier. Alors, c'est une chimère lointaine, mais on en a aussi dans notre passé tout à fait récent. Je reviendrai d'ailleurs sur ce thème tout à l'heure, à la fin du cours. Autre caractéristique de l'analogie, c'est cette obsession dans les ontologies analogistes pour la thématique des correspondances entre le macrocosme, c'est-à-dire le monde, et le microcosme, c'est-à-dire la personne humaine vue comme un monde en miniature. Donc c'est une façon efficace de fixer dans un être privilégié, l'humain, un foyer plus dense, plus condensé même, de signification qui limite la prolifération des signes à son échelle et qui empêche leur réverbération illimitée dans un monde clos. En effet, quand les signes pullulent, quand les singularités abondent et que leur déchiffrement correct est impératif pour ce qui est de déterminer le bonheur ou le malheur, la santé ou la maladie, la fortune ou l'infortune, il est rassurant de se dire qu'il existe dans le corps humain un gabarit d'interprétation qui permet de se repérer dans le parcours infini des similitudes. Alors on en a de nombreux exemples. Celui-là, c'est un qui nous est proche, puisque c'est le corps zodiacal, qui est à la fois une vieille obsession analogiste, parce qu'elle commence avec l'Antiquité égyptienne, mais qu'elle s'est poursuivie bien avant, même pendant le développement du naturalisme. Voilà un autre exemple, c'est un corps subtil tibétain. Bon, ça c'est une autre façon, c'est une façon d'introduire de la contiguïté aussi dans des cosmogrammes, en les référant soit à une figure centrale rayonnante, soit à une expérience individuelle. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails encore une fois, mais c'est pour vous montrer qu'au fond, on a des mêmes formes et des mêmes fonctions, si vous voulez, qui sont remplies par des types de figurations qui sont en fait analogues dans les systèmes analogistes. Une façon classique aussi de rendre visibles des discontinuités faibles organisées en réseau, c'est de montrer des réseaux. Alors, tout ce qui concerne l'inscription des objets dans un espace délimité et soit que ces objets soient hétéroclites, soit qu'ils soient de même nature, permet de mettre en évidence ce genre de réseau. Donc, ça, c'est une tunique de protection. Vous avez ça, c'est une messa rituelle andine. J'ai longuement parlé des messas. Tous ces objets hétéroclites doivent pouvoir fonctionner ensemble. C'est une table de branchement, d'une certaine façon. Ça, c'est les poupées Katsina ou Katsina. Là aussi, c'est les 400 propriétés du cosmos Hopi qui doivent fonctionner ensemble et dont chacune est une représentation ou une figure, si vous voulez. Dernier mécanisme de l'analogisme, enfin celui dont je vais brièvement dire deux mots aujourd'hui, c'est la répétition métonymique d'une image à différents niveaux d'enchâssement. Il peut s'agir soit de la réplique dans une même image d'un motif, d'une structure, ou de la totalité de l'image à des échelles différentes, ce qui engendre un objet du type cristaux de neige, c'est le cas des tsikuri par exemple ici, hein, c'est un cosmogramme en fait, hein, c'est-à-dire vous avez l'axis mundi ici avec les points cardinaux, puis la reproduction de la même chose ici, puis ça peut se prolonger en fait sous forme d'image mentale très très loin, et à chaque fois un niveau d'englobement différent. Et une telle disposition a pour conséquence d'attirer l'attention sur la structure en réseau qui caractérise l'ensemble, en la rendant ostensible par la répétition en abîme. Elle est aussi, elle a comme objectif aussi de mettre en évidence qu'une singularité en apparence autonome est en réalité constituée par des réseaux de relations disséminés à sa surface. C'est le cas, par exemple, de cette divinité AA qui reproduit sur son corps des images miniatures d'elle-même. Voilà, je vais arrêter là. Je ne vais pas commenter ces images. Pour maintenant, et au terme de ce bref mais néanmoins trop long rappel des caractéristiques les plus saillantes du modèle que je propose, pour mettre en évidence la façon dont des images rendent visibles les dimensions ontologiques du réel, je voudrais revenir sur le programme que je me suis fixé pour le cours de cette année. Il s'agit, je l'ai dit, d'aborder des questions que j'avais délaissées, soit parce que leur élucidation passait par la mise en place préalable d'un modèle général par rapport auquel on pouvait les situer, soit parce que leur pertinence ne m'est apparue tout simplement qu'au terme de l'élaboration de ce modèle. La première de ces questions, la plus importante peut-être, concerne le problème de l'hybridation, l'hybridité des images. Tant dans le modèle général des ontologies que j'ai développé, notamment dans mon livre « Par-delà nature et culture », que dans la typologie des modes de figuration qui en est issue, sur lesquels je travaille depuis 4 ou 5 ans maintenant, j'ai privilégié, pour des raisons de clarté didactique, disons, et de simplicité axiomatique, des formes idéales typiques. Il m'a semblé en effet qu'on ne pouvait comprendre la genèse et l'évolution d'un système quelconque sans avoir auparavant mis en évidence la structure de ce système, seul moyen pour comprendre ce qui se modifie exactement lorsque ce système se transforme. Autrement dit, l'origine et le déplacement des éléments constitutifs des divers types ontologiques ne peuvent se constituer en objet d'enquête avant que les formes stables où ces éléments se combinent n'aient été isolées et qualifiées. Donc dans les organismes, comme dans la vie sociale, on ne peut comprendre les mécanismes d'une hybridation que si l'on connaît au préalable les éléments qui se sont combinés et si l'on a pu élucider les conditions de leur compatibilité. C'est pourquoi j'ai toujours employé jusqu'à présent comme matériaux pour définir les propriétés des ontologies des genres de collectifs qui me semblaient répondre le mieux aux traits les plus généraux de chacune de ces ontologies. On en a vu quelques exemples ici, l'Amazonie, la Sibérie, l'aire subarctique de l'Amérique du Nord pour l'animisme, l'Australie pour le totémisme, le Mexique ou l'Afrique de l'Ouest pour l'analogisme, l'Europe moderne pour le naturalisme. Mais évidemment, l'expérience de la vie sociale est toujours plus complexe que ce à quoi les modèles la réduisent. Et il est évident que les métissages ontologiques sont très communs dans bien des régions du monde. Les plus communs sont ceux qui résultent d'une diffusion. Ils concernent, au premier chef, car c'est le cas sans doute le plus commun, des collectifs qui se situent dans une zone d'interface entre eux, essentiellement des aires analogistes et des aires animiques, soit qu'il s'agisse d'une frontière faisant la jointure entre deux grandes nappes, à l'instar, par exemple, des populations du Piémont andin au nord-ouest des Andes, qui ont subi l'influence des civilisations analogistes des hautes terres, comme les Chibchas en particulier, tout en maintenant un fond typique d'animisme amazonien, soit qu'il s'agisse de l'immersion de quelques îlots de l'archipel animique dans des grandes nappes analogistes comme c'est le cas des populations dites moy ou montagnardes dans les plateaux et les montagnes du centre et du nord du Vietnam et des parties du Laos et du Cambodge qui bordent ce pays. Les hybridations de ce type, eh bien, elles résultent de la circulation des idées, des objets, des personnes entre des cultures adjacentes, et c'est un phénomène extrêmement commun et qui a été très bien étudié par les historiens. Plus originales, peut-être, sont ces formes de métissage qui présentent, dans une région uniformément marquée par un type ontologique, des combinaisons avec une autre ontologie dont on ne trouve nulle trace à proximité sous une forme pure, disons. Il faut alors supposer que l'hybridation n'est pas vraiment une hybridation, mais une combinaison intrinsèque et structurelle, autrement dit qu'elle résulte d'un développement endogène diversifiant des possibilités qui sont contenues en germe dans l'ontologie initiale afin d'aboutir à une combinaison complexe. Et c'est un tel cas que nous allons envisager au cours des prochaines leçons lorsque nous examinerons chez les Indiens Tsimshian de la côte nord-ouest du Canada comment se traduisent dans les images la combinaison qu'ils opèrent entre une ontologie animique et une ontologie totémique. Une autre forme de combinaison entre modes de figuration est celle que l'art contemporain met en œuvre depuis près d'un siècle, comme je tâcherai également bientôt de le montrer. Il s'agit moins ici d'une hybridation entre le naturalisme et d'autres ontologies, ou alors dans un sens très lâche, qu'il faudra préciser, que de la possibilité de juxtaposer dans un même espace public des représentations qui relèvent, et de façon ostensible, de registres ontologiques différents. En effet, l'un des résultats de l'afflux sans précédent en Europe d'images venant de toutes les régions du monde à partir de la fin du XIXe siècle a été non seulement de fournir aux artistes une source d'inspiration formelle et stylistique dont des courants comme le japonisme ou le primitivisme offrent des témoignages, mais aussi et surtout de désinhiber les artistes en les aidant à se libérer des conventions de la peinture réaliste qui dominaient l'esthétique occidentale depuis plusieurs siècles. Stimulés donc par cet apport, comme par d'autres circonstances que les historiens d'art ont bien analysées, les artistes ont pu céder à des inférences ontologiques jusqu'alors, disons, refoulées, parce qu'elles ne coïncidaient pas avec les conventions du naturalisme. Et ils ont pu ainsi produire d'autres types d'images qui s'inscrivaient dans d'autres modes de figuration, soit de façon systématique à l'intérieur d'une œuvre, soit au coup par coup, et donc avec un certain éclectisme ontologique. Alors, j'ai bien conscience qu'il est toujours hasardeux de tenter de catégoriser des œuvres contemporaines à partir de ce genre de critères, mais on peut néanmoins penser que certains des dispositifs formels dont ces œuvres font usage ou ont fait usage sont de même nature que ceux employés par d'autres modes de figuration auparavant, y compris du reste le naturalisme dans sa phase classique. Je n'en donnerai ici que quelques très brefs exemples. La commutation animique, c'est un tableau de Dali, hein, avec un titre assez amusant d'ailleurs, mais c'est le même principe de commutation que celui qu'on a vu dans les images des masques, hein, c'est-à-dire on a soit le félin qu'on peut distinguer, et puis en même temps une sorte de réverbération de Lénine dans différentes petites niches. On en a là un exemple qui est plus classique, c'est celui de ce tableau de Victor Brauner, là aussi intériorité, physicalité, sous une forme, on peut appeler ça un Janus si on veut, mais c'est un recto verso. les êtres composites, l'analogisme, alors on voit bien sûr la figure du Bouddha, là je n'ai pas montré le détail, mais disons que la structure générale, c'est une structure absolument caractéristique d'un rapport macrocosme-microcosme, mais si on regarde le détail du contenu, on s'aperçoit qu'il est en fait beaucoup plus large, évidemment, que celui qu'on peut trouver dans un monde qui serait purement, disons, d'inspiration tibétaine, puisque l'artiste est tibétain. Bon, ça, c'est une chimère aussi. C'est carré. Je dois l'image à l'exposition de Jeannette Swedenberger, Tous cannibales, qu'elle a inauguré récemment à la Maison Rouge. Donc ce sont des chimères tout à fait contemporaines, mais qui sont fondées sur le même principe que les chimères que nous avons examinées auparavant. Dernier exemple très bref, bien connu, puisque Lévi-Strauss l'a utilisé comme couverture d'un de ses ouvrages. C'est une illustration d'Anita Albus qui s'en était servie elle-même comme qu'elle l'avait dessinée, enfin elle l'avait peint, pour l'un de ses ouvrages à elle. Donc une juxtaposition d'espèces emblématiques dans un ensemble structuré qui évoque tout à fait le totémisme. Deuxième question qui mérite considération, c'est celle de la construction géométrique de l'image par rapport à l'observateur, c'est-à-dire à la fois par rapport à celui qui produit l'image et par rapport à celui à qui elle est destinée. On a trop souvent l'habitude de réduire cette question à une opposition entre la perspective monofocale telle qu'elle fut inventée à la Renaissance italienne sur des bases géométriques explicites et toutes les autres formes de représentation qui ne s'y conformeraient pas. Or, si l'on prend en compte les différentes techniques de restitution de ce qui est perçu dans le champ visuel humain, on s'aperçoit qu'elles sont toutes fondées, comme la perspective monofocale, sur des transformations géométriques d'un nombre plus ou moins grand d'invariants des objets perçus ou imaginés. Si on reprend par exemple la typologie proposée par Margaret Hagen dans Varieties of Realism, un livre consacré à cette question de perspective, on aboutit à quatre types principaux de transformations. Les transformations métriques, qui conservent toutes les propriétés des figures transformées à l'exception de leur emplacement et de leur orientation, des transformations par similarité, qui opèrent de façon identique, sauf qu'elles perdent aussi la dimension, les transformations par affinité, dans lesquelles l'angularité disparaît, mais où le parallélisme demeure invariant, et enfin, les transformations projectives, dont le meilleur exemple est la perspective monofocale, dans lesquelles la plupart des invariants précédents ne sont plus transposés, à l'exception de primitives comme le caractère rectiligne des droites ou bien comme la disposition des volumes les uns par rapport aux autres. À ces choix dans le type de transformation, s'ajoutent des choix quant au point d'observation adopté par le producteur de l'image. C'est un point unique ou un point multiple, point d'observation que l'on souhaite restituer. Or, chacun de ces choix représentationnels constitue également un choix ontologique au sens large, c'est-à-dire dépendant d'une part des propriétés des objets du monde que l'on choisit ou non d'actualiser, et d'autre part, de la définition que l'on donne des aptitudes du sujet connaissant, notamment de la capacité qui lui est reconnue d'avoir un point de vue unique ou non, un point de vue totalisant ou non. Alors, sans espérer une correspondance absolue entre type ontologique et type de géométrie représentationnelle, il n'est toutefois pas impossible de mettre en évidence des connexions entre ces deux plans. C'est en tout cas une question qui va me retenir assez longuement cette année. Enfin, il est un autre problème sur lequel je voudrais revenir un peu longuement au cours de cet enseignement, c'est celui de l'agence des images et de ses mécanismes cognitifs. C'est une question que j'avais brièvement abordée en 2009 lorsque je m'étais attaché à montrer qu'une image peut être vue comme exerçant une agence, donc comme un agent exerçant une action sur d'autres agents, soit parce qu'elle paraît animée dans certaines circonstances du même type d'intentionnalité que les sujets qui sont réputés l'avoir faite, inspirée ou utilisée. C'est une inférence mentaliste qui est au fond la plus commune en régime animique, soit parce que, en stipulant pour l'image un rôle social conçu par analogie avec celui que peut remplir un humain, l'image paraît jouir d'une autonomie d'action, cette modalité agentive étant la plus commune en régime analogiste. Dans le séminaire qui a précédé ce cours que j'ai fait ici, Gilles Tarabou nous a montré un magnifique exemple avec ces divinités hindoues que l'on traite du matin jusqu'au soir comme des personnages en qui on met des bonnets de nuit la nuit pour les faire dormir, etc. etc. Alors, dans les deux autres régimes ontologiques, on infère aussi une agence dans les images, mais sur la base de principes qui sont sensiblement différents et qu'il nous faudra examiner. À ce stade, je me contenterai de dire que les mécanismes en jeu semblent là aussi très contrastés. D'une part, ça serait la recherche d'une iconicité maximale dans la figuration naturaliste, avec le désir de restituer l'agence du prototype en incluant dans l'image le plus grand nombre de ses qualités. Et c'est un mouvement qui commence d'ailleurs bien avant l'émergence du naturalisme, puisqu'il s'enracine dans la théorie de la mimésis grecque et dans la tradition chrétienne de l'incarnation. Et d'autre part, la recherche d'une indexicalité maximale dans le totémisme, du moins sous sa forme australienne, où l'image est vue comme une empreinte ou comme une excroissance du prototype qu'elle figure, et de ce fait, elle est vue comme encore tout imprégnée par les traces de la causalité agissante de ce prototype. J'aborderai d'autres questions, mais je vois que l'heure est déjà très largement dépassée. Donc la semaine prochaine, nous commençons avec la question de l'hybridation, des images totémiques et animiques avec les Tsimshian de la côte nord-ouest du Pacifique.